Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture et même toutes les formes de transport. Car nous serons depuis Angoulême pour parler BD et depuis Nantes pour parler Beethoven et musique. Vous pouvez nous suivre évidemment en vidéo sur le site europe1.fr. Question, comment un petit pays de 9 millions d'habitants, dont un tiers ne regarde pas la télé, peut-il produire autant de séries et des bonnes? C'est en Israël qu'est né Atoufim, qui a donné Homeland pour ne citer qu'elle. Canal Plus propose ce soir une soirée spéciale avec un documentaire Israël, terre de série, réponse à ma question avec son auteur Olivier Joyeur qui sera avec nous. Le tournoi des 6 nations, ça commence ce week-end. Nous recevrons le journaliste Cédric Baudou et l'international Vincent Clerc pour 15-15, un magazine de rugby d'un genre nouveau. Le festival d'Angoulême, quelle actu, ça démarre également aujourd'hui. Le président Macron y sera, Mathieu Charrier aussi en duplex. Et dans notre studio, la star Pénélope Bagieu, 450 000 exemplaires vendus pour culotter, 17 traductions et récompensées aux États-Unis du Eisner Award, l'équivalent de l'Oscar de la meilleure BD. Sa nouvelle BD sort aujourd'hui, ça s'appelle Sacrée Sorcière. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, vous n'êtes pas une sorcière. Bonjour Céline Dacosta.
J'espère bien.
Moi aussi, j'espère
bonjour
bien,
Philippe Bandel, bonjour à tous.
On s'inquiète toujours. Cyril Lacayère, vous n'êtes pas non plus un lutin, bonjour.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Qu'avez-vous au menu ce matin pour votre journal des médias?
Ce matin, on parle argent dans l'audiovisuel français et anglais, on parle de choix économiques et éthiques, on parle de chaînes de télé qui se mettent à YouTube et de la télé qui nous parle, elle, d'Europe.
Mais Cyril, c'est la tradition. On commence d'abord par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Ils ont regardé TF1 et la série New Amsterdam. Près de 3 300 000 téléspectateurs étaient devant la une. Cela représente quasiment 16% de part de marché. Deuxième position pour France 2 avec le téléfilm Flic, tout simplement. À près de 3 millions de téléspectateurs pour la 2. Et en troisième position, M6 avec 2 200 000 personnes devant l'émission de Stéphane Plaza, Maison à vendre.
Et vous m'avez dit juste avant d'entrer en studio, j'ai 2 gros millions.
J'ai 2 gros millions en effet. Ouais. Le premier, c'est pour Arte avec le célèbre film Un air de famille. 1 950 000 personnes, téléspectateurs, étaient devant Arte. C'est quasiment oui. 2 millions. Ouais. Et un autre gros score pour France 3 avec le match de foot, match de Coupe de France, Marseille-Strasbourg. 1 919 000 personnes ont regardé la sublime victoire de l'Olympique de Marseille.
Cyril, on va commencer ce journal des médias par un bon vieux serpent de mer de l'audiovisuel français.
Et si on supprimait la redevance télé? Une bonne vieille question dont on ne se lasse pas. Après Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui avait lancé l'idée de supprimer cette redevance, qui, je le rappelle, finance l'audiovisuel public, cette fois, c'est au tour du rapporteur du budget, donc encore quelqu'un du côté de Bercy, de venir mettre sa petite pièce dans la machine. Dans une interview accordée à la correspondance de la presse et repérée ce matin par Le Figaro, Laurent Saint-Martin se demande quelle est la pertinence aujourd'hui d'un impôt comme la redevance audiovisuelle. Pour le rapporteur du budget, la redevance serait aujourd'hui injuste car elle ne concerne que ceux qui ont une télévision alors que de nombreuses personnes regardent désormais les programmes sur d'autres supports. Alors suppression ou pas suppression, du côté de l'Élysée, les choses avaient été tranchées. Pas question de supprimer la redevance, mais on le voit, certains n'hésitent pas à tenter de relancer le débat.
Et du côté de l'audiovisuel anglais ou britannique, également la situation est délicate. La BBC s'est lancée dans un plan de modernisation.
Et qui dit plan de modernisation dit souvent suppression d'emplois, et c'est bien le cas du côté de la BBC, où 450 postes vont être supprimés au sein de la rédaction. La coupe est drastique car la BBC doit réaliser d'importantes économies. 95 millions d'euros à trouver d'ici 2 ans. Si une première moitié a déjà été trouvée, la seconde le sera grâce à cette coupe dans les effectifs. La BBC traverse une période délicate. Nous en avons déjà parlé à ce micro. Son directeur général a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait son poste et le gouvernement de Boris Johnson en bisbille avec la BBC envisage de revoir les conditions de son financement.
On reste en Angleterre, Cyril, avec une initiative du quotidien The Guardian.
Terminer les publicités pour les sociétés pétrolières et gazières. The Guardian, qui dit viser la neutralité carbone d'ici 10 ans, ne veut plus accepter l'argent d'entreprises qui, je cite le Guardian, empêchent depuis des décennies les gouvernements du monde entier de prendre des mesures significatives en matière de climat. Une manière donc pour le quotidien de marquer encore davantage son engagement en faveur de la lutte pour la protection de l'environnement.
LCP, la chaîne parlementaire, c'est une chaîne chaîne de télévision, mais de nos jours, cela ne suffit plus.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On lance une chaîne YouTube, évidemment, et c'est donc dans cette aventure que LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale, installée sur le canal 13 de la TNT, vient de se lancer. On va pas se mentir, c'est plutôt inattendu pour LCP qui n'a pas franchement une image de médias très réseaux sociaux, mais il faut croire que son patron, Bertrand Delay, veut dépoussiérer un peu sa chaîne. Écoutez ce qu'il nous explique de son projet. Bertrand Delay est interrogé par Alexandre Omar.
Le fait d'être sur YouTube est une autre façon pour la chaîne parlementaire d'exister, j'allais dire sur Internet, pour un autre public et pour une autre consommation. On a déjà, en facilitant les passerelles entre notre public de Twitter et notre public télé, on a déjà rajeuni notre public. Et toute la stratégie depuis que je dirige la chaîne parlementaire est de faire de cette chaîne, de la marque LCP, un vrai média global sur tous les supports avec un public sans cesse rajeuni. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi sur nos programmes maintenant une chaîne YouTube. La télé est une audience qui stagne, mais la consommation, j'allais dire, de programmes, elle augmente. Parce qu'il faut être présent de multiples façons aujourd'hui.
Reste que se faire une place sur Internet, c'est souvent un travail de longue haleine et qui demande de maîtriser les codes du genre. Comme LCP a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait aucun contenu inédit diffusé sur sa chaîne YouTube, nous avons demandé à son président s'il pensait qu'à terme, il aurait besoin quand même de faire appel à des personnalités issues d'Internet. On pense évidemment à des YouTubeurs.
Notre but est quand même, j'allais dire, de toucher un public le plus large et le plus jeune. Et c'est sûr qu'en prenant demain des personnalités issues d'Internet ou par exemple de l'univers des jeux vidéo, peuvent être peut-être un moyen de toucher un nouveau public. Au fond, ce ne sont que des interfaces entre nos programmes et le public. Et Maïtena, pour parler d'elle, quand elle arrive, c'est une star télé classique, je veux dire, qui a son parcours et son public, et elle nous permet de toucher un public particulier. Mais demain, on peut tout à fait envisager qu'on touchera un autre public avec d'autres personnalités.
On sent le patron de LCP tout de même prudent sur le sujet YouTube, et c'est d'ailleurs un problème plus vaste que le seul cas de la chaîne de l'Assemblée nationale. Oui, il faut être sur les plateformes, mais pour dire quoi, avec qui et surtout avec quels moyens? Son colocataire du canal 13, Public Sénat, a lui déjà avancé ses pions sur les internets. La chaîne dirigée par Emmanuel Kessler a lancé sa chaîne YouTube il y a déjà 13 ans et elle a inauguré un format innovant à la rentrée 2018 avec le youtubeur Jean Massier, une interview d'une personnalité politique via la plateforme de jeux vidéo Twitch.
L'Europe, c'est souvent le parent pauvre de l'information. Alors pour tenter de mieux couvrir ce qui se passe à Bruxelles, la chaîne Euronews inaugure un tout nouveau studio.
Mieux qu'un simple studio, Euronews inaugure The Bridge, le pont en français. Et c'est un nom symbolique. Ce nom, nouveau studio, est installé sur une passerelle qui relie deux bâtiments du Parlement européen, une passerelle surnommée The Bridge. Et sur ce pont, c'est justement ce que se propose de faire Euronews entre les élus européens et les citoyens, deux populations qui se connaissent mal. Je vous propose d'écouter à ce sujet, Françoise Champet, la directrice de la rédaction d'Euronews. Elle est interrogée par Alexandre Omar.
On se rend compte que les Français en particulier connaissent mal leur Parlement, connaissent mal leurs représentants, connaissent mal leurs parlementaires. Et donc c'est une opportunité pour les parlementaires de s'expliquer sur la politique qu'ils poussent à Bruxelles et à Strasbourg, et à Euronews de faire un décryptage aussi précis soit-il au quotidien pour les téléspectateurs qui nous regardent dans les 160 pays où on est distribué et les 400 millions de foyers.
Mais si les Européens connaissent mal leurs eurodéputés, tout ne semble pas perdu. Au contraire, Françoise Champet estime même que certaines thématiques débattues en ce moment même à Bruxelles ont le vent en poupe.
On s'est rendu compte au cours des dernières élections européennes qu'il y avait un engouement pour les affaires européennes, surtout parmi les jeunes. Et que donc il y avait des thématiques en particulier sur l'écologie, la planète, l'économie, l'avenir de l'Europe, l'élargissement de l'Europe qui faisaient véritablement mouche auprès d'un nouvel auditoire.
Alors, Euronews parviendra-t-elle à attirer un nouvel auditoire grâce à son bridge? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Euronews, je vous rappelle que c'est une chaîne installée à Lyon. Elle est distribuée dans 160 pays et en France, vous pouvez la trouver sur toutes vos boxes.
Mais elle n'est pas sur la TNT. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour avec ce soir sur Canal+, un documentaire, Israël, terre de séries, qui propose d'expliquer pourquoi les séries israéliennes ont pris une telle importance sur la scène internationale. On en parle avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Question, comment un petit pays de 9 millions d'habitants dont un tiers, vous allez l'apprendre, ne regarde pas la télé, peut-il produire autant de séries et de bonnes séries? Car c'est en Israël qu'Enera Toufim, par exemple, qui a donné Homeland, BT Pool qui est devenu In Treatment sur HBO et maintenant Our Boys, Nos Garçons, série événement diffusée pour la première fois ce soir sur Canal+. La chaîne cryptée consacre d'ailleurs une soirée spéciale série Made in Israel à partir de 21h. Our Boys sera suivi d'un documentaire Israël Terre de Série réalisé par Olivier Joyard. Bonjour Olivier Joyard.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste aux Inrocks et surtout documentariste. Une série israélienne sur quatre, je l'ai appris grâce à vous, est adaptée ou vendue à l'étranger, en Pologne, au Brésil, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, en Inde, en France. Comment se fait-il que les séries israéliennes, qui est un pays, faut-il le dire, très très particulier, plaisent et parlent à ce point au monde entier?
C'est un pays particulier, c'est un pays jeune aussi, 1948, et en fait il n'y avait pas de télé jusqu'à la fin des années 60 et il n'y avait même pas de chaîne privée jusqu'aux années 90.
Donc alors raison de plus.
Il y a 25 ans il n'y avait pas de série, et donc il y a cette idée d'une sorte de start-up nation, quoi, une génération une génération presque spontanée. Il n'y a pas d'histoire vraiment télévisuelle à laquelle se raccrocher, donc ils ont inventé.
Ça, j'ai bien compris. Pourquoi ils ont fait des séries, je le comprends. Mais comment se fait-il qu'elles plaisent à ce point? Nous, on a eu beaucoup de mal à exporter, le gars qui fait son enquête avec son tuf-tuf qui roule à deux à l'heure.
Ah oui, Louis Labrocante.
Louis Labrocante, voilà. Ouais. Pardon.
Merci,
et qui fait les numéros de téléphone en entier.
Françaises.
Non, mais nous, c'est difficile, d'exporter les séries. Comment se fait-il que ça marche et que ça plaise et que ça parle au monde entier?
Alors, c'est évidemment très, très mystérieux. Il y a une part de mystère à ça, mais il y a aussi cette idée qu'ils se consacrent à ce que je dirais, ce qui peut être l'épure de comment on fait une série, c'est-à-dire l'émotion, l'intimité, les personnages. Ils ont tout de suite compris ce qu'on attend d'une série aujourd'hui. C'est de nous emmener dans une sorte de trajectoire personnelle. Il y avait cette série sur un psy qui s'appelait In Treatment.
Ah bah justement, elle s'appelait BT Pool au départ. Ça fait 15 ans qu'elle existe, puisque vous en parlez. In Treatment, ça continue d'être adapté à l'étranger. Le pitch, il est simple. C'est un psy qui se retrouve en face à face avec ses patients. La série a déjà été adaptée dans 19 pays qui ont chacun apporté leur touche à l'original. Extrait.
20 fois la même chose, c'est l'occasion de comprendre ce qui peut rapprocher les peuples. Comme ce geste simple du premier épisode, ici dans la version originale. Au Québec, la couverture fine devient logiquement un plaid 100% laine. En Argentine, l'imprimé prime sur tout. En Roumanie, la tendance est à l'orange sur top violet. Forcément, l'italien n'est pas d'accord. En Serbie, le psy plie élégamment les jambes. En Hollande, il les déplie. Le Slovène, rebelle, introduit des mouchoirs et du thé avant de rentrer dans le rang. Au Japon, on prend vraiment des libertés avec l'original. Le plaid est déjà sur les épaules de la patiente et il est retourné à l'envoyeur. Mais la palme du punk va à la Russie, seul pays où le thérapeute est une thérapeute, et où le châle devient une capuche.
On reconnaît votre voix et on découvre votre humour, Olivier Joyard. La 20e adaptation de la série sera française. On ne sait pas si elle sera plaid ou capuche, en tout cas moi je ne le sais pas. On sait qu'elle sera pilotée par Toledano et Nakache, ouais. C'est pas rien. Elle est en tournage en ce moment pour Arte, ça va s'appeler En Thérapie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la série? Vous connaissez le casting?
C'est Frédéric Pierrot qui était dans Les Revenants, qui joue le psy. Et puis parmi il y a Mélanie Thierry, Reda Kateb notamment, parmi les patients. Il y a Carole Bouquet qui joue la thérapeute. Donc ça va être une des séries les plus attendues de la rentrée dans quelques mois. Et ça va être surtout l'occasion de se dire que voilà, la France, 15 ans après, essaye de rattraper un peu son retard. Moi, c'est toujours la question que je me pose quand je vois ce petit pays, Israël, qui n'a même pas 9 millions d'habitants, dont toutes les séries sont adaptées à l'étranger, qui a une espèce de vitalité, une créativité incroyable, qui est due à plein de choses, hein, l'intensité de la vie en Israël, cette idée qu'il n'y a pas d'histoire à laquelle se raccrocher. Mais voilà, ça, c'est une sorte de leçon pour nous. Ils font des séries avec 3 francs 6 sous, très peu d'argent.
Mais il y a aussi un background qu'on a pas, en tout cas pas depuis la guerre d'Algérie. L'adaptation la plus connue reste celle de la géniale série Atoufim qui est devenue Homeland, l'histoire du retour de soldats prisonniers depuis des années. Pourquoi et comment les États-Unis, puisque c'est le marché principal mondial, s'intéressent à cette série et décident de l'adapter?
Il y a eu un agent américain qui s'appelait Rick Rosen qui a contacté Avenir, qui était le patron de la chaîne Keshet, qui faisait cette série. Et il a tout de suite vu un potentiel pour l'adapter aux États-Unis, parce qu'il y a de toute façon des liens entre les États-Unis et Israël qui ne sont pas secrets, qui sont depuis longtemps. Même Hollywood a été fondé en partie par des immigrés juifs qui sont venus s'installer aux États-Unis, qui ont fui les persécutions. Donc il y a une sorte de une conjonction de facteurs, quoi. C'est aussi quand même qu'ils ont trouvé la bonne idée, hein, parce qu'avant, il n'y avait pas de série israélienne qui était adaptée.
Alors, il n'y a pas que le plaid qui change quand une série israélienne est adaptée, il y a également le budget. Alors, vos chiffres, quand même, c'est assez hallucinant. Ouais. Ça me fait même sourire. La série Tagad, qui raconte les aventures d'une unité médicale de l'armée israélienne, a été adaptée aux États-Unis. Et là-bas, le budget pour un épisode, c'est 3 fois le budget des 40 épisodes de la première saison. C'est-à-dire fois 120. Comment c'est possible? Comment on arrive à faire des séries aussi géniales en ayant aussi peu de budget?
En fait, c'est un budget de court-métrage un peu, quoi. C'est comme si on tournait des court-métrages à la chaîne en Israël. Et c'est aussi parce qu'ils ont, je crois, absolument rien à perdre et qu'ils sont absolument pas non plus accrochés à des... Comment dire, ils vont à la simplicité, quoi. Ouais. Si on a 1h30 pour tourner un plan ou une séquence où il y a 3 pages de dialogue où c'est super long, on va faire qu'un plan. On va travailler de manière beaucoup plus réfléchie et pensée en allant droit au but. Et puis, ils ont des concepts très simples. Hein. In Treatment, Betty Poole, c'est 2 personnes qui se parlent dans une pièce.
Ouais, ça me fait sourire parce que souvent, l'argument qu'on entend ici en France, on dit on n'a pas les moyens des séries américaines.
C'est un faux argument. En plus, maintenant, on a des moyens bien supérieurs. C'est en minimum 4 fois supérieur à ce qu'ils ont en Israël. Donc...
Est-ce qu'ils les vendent cher, leurs séries à l'étranger? Ou est-ce que quand une télé européenne ou américaine achète une série israélienne, comme elle sait que c'est produit avec peu, elle l'achète peu?
Je ne pense pas qu'ils deviennent milliardaires en vendant leurs séries à l'étranger. Je pense qu'ils rentrent plutôt dans leurs frais où ils peuvent se donner de l'énergie pour continuer à produire. C'est ça qui est un peu paradoxal avec Israël. C'est qu'au fond, ils ont un tout petit marché. Il n'y a pas beaucoup de pubs, il n'y a pas beaucoup de revenus. Les séries ne rapportent pas grand-chose si elles sont uniquement vues en Israël. Donc il faut penser international dès le début, quoi. Mais ça permet d'équilibrer. C'est pas comme ça qu'on va créer une industrie Hollywood bis à Tel Aviv.
Vous restez avec nous, on va entendre les comédiens qui racontent les conditions de tournage, c'est saisissant.
Dans l'infomédia du jour, on parle ce matin des séries israéliennes qui se multiplient et qui sont de véritables succès. Comment, pourquoi le documentaire Israël Terre de série diffusé ce soir sur Canal+, est en train de vous l'expliquer. Et on continue à en parler avec son réalisateur Olivier Joyard dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En l'espace de 10 ans, les séries israéliennes ont conquis la planète entière. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec Olivier Joyard qui a réalisé un documentaire expliquant ce phénomène Israël, terre de séries, et qui est diffusé ce soir à 23h sur Canal+, Philippe.
Vous nous l'avez dit, les Israéliens ont des budgets serrés, mais également des conditions de tournage particulières. Dans votre documentaire, on entend Letty Saïdo, elle est comédienne franco-libanaise et elle joue dans la série d'espionnage Fauda, elle raconte.
La première saison en 2014, on a commencé à tourner avec l'intensité normale du pays qui est déjà haute. Et le conflit, en fait, c'est un des nombreux conflits, mais celui de 2014 s'est déclenché pendant le tournage. Donc la tension là est devenue vraiment très palpable partout, dans l'équipe aussi, puisque c'est une équipe mixte juif israélien, arabe israélien. Et les discussions politiques, évidemment, allaient bon train. Et on allait se cacher 4-5 fois par jour, enfin se cacher, se protéger dans les abris, parce que c'est la loi, c'est la règle. Surtout sur un tournage, on ne peut pas vraiment transiger avec ça. Donc tout ça, c'est très lourd à porter. Et un jour, la productrice a dit à toute l'équipe, en fait, « Je comprendrais si demain, vous décidez de ne pas venir, en fait. On peut arrêter. »
Qu'est-ce que ça change de tourner des séries en Israël, à part l'insécurité, évidemment? Est-ce que le conflit est partout dans toutes les histoires?
Je crois qu'on peut dire que le conflit est partout et sous toutes ses formes, quoi. Ça peut être une série sur l'autisme, par exemple, sur donc les conflits intérieurs, sur les frontières, sur la politique. En fait, tout se mêle parce que c'est aussi pour ça que les séries israéliennes sont aussi passionnantes. C'est qu'elles elles reflètent l'intensité de la vie de ce territoire qui est minuscule, qui n'a pas de frontières reconnues par le droit international, qui est un pays d'occupation, qui est un pays de création, qui est un pays très paradoxal de plein de points de vue. Et moi, c'est ce qui m'a frappé en allant tourner là-bas, vraiment.
Et un pays qui est très récent. Vous dites que la télévision, ça date des 60. Jusqu'en 93, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Pourquoi la télé est-elle arrivée là-bas si tard?
L'idée, c'était le père fondateur David Ben-Gurion d'Israël. Il disait « La télé, c'est une petite boîte stupide. Il ne faut pas divertir les gens, il ne faut pas perdre notre temps. On doit être les pionniers de ce pays. » Donc, il n'a pas voulu de la télé. Dans le documentaire, il y a une petite interview des années 60 où il dit qu'on a installé la télé dans son kibbutz, mais il ne la regarde pas. Il préfère lire un livre.
Alors, j'en viens à la diffusion ce soir, pour la première fois en France, de la série Our Boys sur Canal+, je le rappelle. C'est une série qui a fait scandale cet été en Israël. Et même le Premier ministre Benjamin Netanyahou, pardon, a même appelé au boycott de la chaîne qui la diffuse. Alors je vais raconter le contexte. C'est une série inspirée de faits réels. Ça s'était passé le 12 juin 2014. Trois adolescents juifs sont kidnappés en Cisjordanie alors qu'ils faisaient du stop. Ils sont retrouvés morts une vingtaine de jours plus tard. Et c'est pour se venger que des jeunes religieux ont enlevé un jeune palestinien en pleine rue et l'ont brûlé vif. La série fait scandale en Israël car elle s'intéresse à la douleur de la famille palestinienne et elle tente de comprendre le passage à l'acte des religieux, série jugée carrément antisémite par le Premier ministre.
Un Premier ministre qui parle en termes hostiles d'une série à quelques jours d'élections législatives, voilà ce qui est arrivé à la fin de l'été 2019.
C'est une télé de gauche, ils passent leur temps à dénigrer Israël.
En cause, la série Our Boys, diffusée sur l'américaine HBO, est qualifiée par Benjamin Netanyahou d'antisémite dans un post Facebook. Son co-créateur Haggai Levy a réagi à sa manière.
J'étais très heureux. Je savais que ça allait être quelque chose d'immense pour la série et que beaucoup de gens allaient regarder. En Israël, à l'étranger. Donc c'était une bonne chose. Je n'arrivais pas à me sentir comme un martyr, je dois l'admettre.
Prouvant la puissance du médium dans le pays, la série a interpellé tout Israël.
Olivier Joyard, vous écrivez dans Les Inrocs que Our Boys s'impose déjà comme l'une des meilleures séries de 2020. On n'est qu'en janvier. Qu'est-ce qu'elle a de si génial, la série, vous qui l'avez vue. Non, mais je peux vous croire. Hein.
C'est assez merveilleux parce que c'est à la fois une série d'enquêtes policières et une série d'introspection intime et nationale d'un pays. Donc, et c'est une série qui joue, et c'est ça la puissance aussi des arts israéliens d'une manière générale, mais là en particulier des séries, c'est de se confronter à d'autres points de vue. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, en tout cas, ici, c'est le cas. D'ailleurs, la série a été diffusée sur HBO, qui est une chaîne américaine, parce que financer ça en Israël, c'était peut-être un peu compliqué. Par contre, ce sont des scénaristes israéliens et des producteurs israéliens. Et c'est cette idée vraiment, ils sont allés chercher un réalisateur et scénariste palestinien israélien qui s'appelle Taofik Abou Wael pour travailler avec eux, Haggai Levy et le réalisateur Joseph Sedar. Donc c'est à trois voix, comme ça, ils se sont dit, voilà, on va montrer surtout le point de vue de la famille palestinienne et puis le point de vue des enquêteurs d'une unité spéciale des services secrets israéliens consacrée aux juifs, c'est-à-dire qui cherchent les extrémistes juifs qui commettent des crimes.
Je l'ai dit en préambule, Israël, 9 millions d'habitants et un tiers n'a pas la télévision. Pour quelles raisons ? Expliquez-nous.
Ouais, bah, il y a les ultra-orthodoxes qui sont censés ne pas regarder la télévision, non seulement le vendredi pour Shabbat, mais toute la semaine.
Je pensais que c'était une minorité. Un tiers, c'est beaucoup. Un tiers des gens qui n'ont pas la télévision.
Il y a aussi la population arabe qui représente entre 15 et 20% quand même de la population en Israël. Ouais. On ne le dit pas assez. C'est ce que j'ai découvert aussi en faisant ce documentaire. C'est la diversité des points de vue et des voix qui sont possibles de s'exprimer en Israël, même si certaines sont discriminées. Mais donc voilà, ça fait qu'en gros, il y a peut-être 3 millions d'adultes qui regardent des séries en Israël, 3-4 millions, quoi. C'est pas tant que ça.
Toutes les adaptations ne sont pas des succès, évidemment. Il y a aussi des échecs, des déchets. Pourquoi certaines séries israéliennes n'ont pas marché à l'étranger ? Vous avez une analyse là-dessus ?
Moi, je pense que c'est à cause de ceux qui les adaptent. Ce n'est pas à cause des Israéliens. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans un délire de séries. Il y a plus de 500 séries qui sortent aux États-Unis chaque année. Dans le monde entier, il doit y en avoir 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne peut plus dormir si on regarde des séries. Est-ce que vous regardez, vous ?
Moi, je ne regarde pas. Je m'interdis parce que c'est trop chronophage. C'est un choix parce que comme je lis les livres de mes invités et je regarde les films, et tout ce qui passe, je ne peux pas regarder de série, je me l'interdis. Mais vous savez qu'il sort 5000 albums de BD par an, rien qu'en France. Mais vous n'êtes pas en train de me dire que toutes les séries faites en Israël sont bonnes ?
Non, mais évidemment que non, il y en a plein. Il y a des séries qu'on ne verra jamais, des séries ultra populaires qui sont comme des soaps, qui sont les équivalents de Plus belle la vie ici. Alors on peut aimer Plus belle la vie, mais c'est formellement, artistiquement, peut-être pas le summum de la créativité. Non, bien sûr.
À ceci près, bonne question, je ne m'attendais pas à aller sur ce terrain-là. Est-ce que le Plus belle la vie israélien a importé dans son scénario le conflit israélo-palestinien ?
Tout le temps, évidemment. Ça parle que de ça.
Une histoire d'amour.
Oui, et puis ça parle des conflits à l'intérieur de la société israélienne elle-même, entre les différentes communautés juives, les ashkénazes, les séfarades, les ultra-orthodoxes, ceux qui pratiquent beaucoup, ceux qui ne pratiquent pas. Enfin, c'est très, très, c'est très, très divers en fait ce qui est raconté et qui vient d'Israël.
Vous savez quoi ? Ça donne vraiment envie de voir Le Plus belle la vie israélien quand on voit déjà les intrigues. La soirée spéciale série Made in Israel, il y aura deux séries, Our Boys et Nehama, et un documentaire signé par vous, Olivier Joyard. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Le rugby est à l'honneur dans Culture Média. Le tournoi Destination reprend ce week-end. Premier match pour nos Bleus dimanche face à l'Angleterre. On en parle avec nos invités qui vont co-présenter un nouveau magazine sur France 2 pour l'occasion. Vincent Clerc et Cédric Baudou nous rejoignent dans un instant sur Europe 1.
9h. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on parle rugby ce matin.
Oui, le tournoi Destination, c'est reparti, ça reprend ce week-end. En fait, deux matchs samedi sur France 2, Pays de Galles, Italie et puis Irlande, Écosse. La rencontre la plus attendue, le crunch France-Angleterre, évidemment, ce sera dimanche à 15h50 en direct sur France 2. Il y a beaucoup de nouveautés sur la 2, ça sera toujours Mathieu Lartaud aux commandes, mais le consultant ne sera plus Fabien Galthié à ses côtés, vu qu'il est devenu le nouveau sélectionneur du 15 de France. Donc, Mathieu Lartaud, pardon, aura Dimitri Yachvili à ses côtés. Mais il y a également du nouveau pour le magazine 15 sur 15, c'est comme ça qu'on dit 15 en chiffres romains, slash et 15 en chiffres arabes. Il sera présenté par nos deux invités du jour, Cédric Baudou, bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Vincent Clerc, bonjour.
Bonjour.
Cédric Baudou, vous êtes journaliste sportif à France 2, rédacteur en chef de la partie rugby. Vincent Clerc, vous avez, si j'ose dire, pris la place de Raphaël Ibanez, qui a été appelé lui aussi auprès de Galthié pour devenir le manager des Bleus. Vous êtes international de rugby, ancien international, je vais raconter le palmarès, long comme le bras, triple champion de France, triple champion d'Europe, vice-champion du monde avec l'équipe de France, 67 sélections en bleu, 34 essais, mais surtout, vous êtes le record du nombre d'essais marqués en top 14, et comme les Dalmatiens, 101. Cédric Baudou, c'est impressionnant, non ?
Ouais, j'ai un palmarès un petit peu moins impressionnant.
Ouais, j'imagine.
Mais oui, c'est pour ça qu'on l'a choisi en partie, et puis surtout parce qu'il est, clair, précis, professionnel, sympa. Enfin,
vous l'avez aussi choisi parce qu'il était bon, et on va le dire, il y a du mercato, même dans les chaînes de télé, vous l'avez piqué à Canal+.
Oui, je l'ai piqué à Canal+, oui, on peut dire ça, mais avec Vincent, vous savez, c'est avec, comme beaucoup de consultants, on se connaît depuis des années quand même, donc on parle depuis des années du fait de peut-être un jour de voilà. travailler ensemble.
Ils vont être contents d'apprendre ça, les gens de Canal. c'est quoi votre magazine 15 sur 15 raconté pour qui ne l'aurait jamais vu ?
En réalité, ça fait partie de la tradition sur les grands événements de France Télévisions. À chaque fois, on a un magazine qui accompagne comme ça nos grands événements sur le Tour de France, sur les Jeux Olympiques, sur Roland-Garros. Il y a cette terrasse avec Laurent Luyat. C'est la même chose pour le tournoi Destination, c'est-à-dire qu'on a un magazine qui prend l'antenne et qui, entre les matchs, fait la jonction. Donc, ça nous permet de décrypter tous les matchs, de savoir techniquement comment ça s'est passé, de montrer quelques portraits, d'avoir l'analyse de Vincent, des autres consultants.
Vous prenez l'antenne avant, après, pendant, oui, même
exact.
Pendant.
Alors, c'est-à-dire qu'on prend l'antenne juste avant, à la mi-temps, évidemment, on revient, entre les matchs également, et après, on va garder l'antenne à peu près une demi-heure après le match de l'équipe de France, par exemple.
Question technique, parce que quand on est à l'équipe de France de foot, c'est soit sur la 1, soit sur la 6, tout le monde se barre à la mi-temps parce qu'il y a les pubs, ouais. Il n'y a pas de pub à la mi-temps chez vous.
Alors, nous, on a la chance encore d'avoir de la pub les après-midi, puisque ouais. Le tournoi la plupart du temps lieu l'après-midi, donc aussi on a une page de pub assez conséquente, mais dans les quelques minutes qui nous restent, effectivement on revient sur les prouesses du 15 de France lors de la première période.
Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est l'endroit, là, vous n'êtes pas en studio
Non.
Au chaud.
Non, nous on a fait le choix systématiquement d'être dans les stades du tournoi. Pourquoi ? Parce que ce sont des stades mythiques, c'est un théâtre à part entière. Quand on va à Lansdowne Road, quand on va, enfin je suis un vieux donc je dis encore Lansdowne ouais. Road, quand on va à Twickenham, on ne peut pas se passer d'un théâtre pareil. C'est-à-dire que ce serait un sacrilège de faire ça depuis Paris. Donc on a pris le parti depuis longtemps d'être dans les stades et je pense que c'est ce qui a plu aussi à Vincent.
Ouais, c'est ce qui vous a plu d'être ouais, là sur place ?
Ouais, de revenir dans les stades qui m'ont fait vibrer en tant que joueur et c'est vrai qu'il y a une mémoire du corps. Quand on revient dans les stades, on se rappelle de tout ce qui s'est passé, qu'on avait plus ou moins oublié, d'être en proximité du terrain, de voir aussi les joueurs avec qui on a joué. C'est vrai qu'on est proche d'eux.
Ah bah ça allait être justement ma question. Quelle sera votre liberté de parole ? Parce que,
total.
Je vais vous dire ce qu'il y a. Quand on entend Mathieu Lartaud qui commente les matchs et Julien Segré, quand l'équipe de France joue mal, en ce moment elle ne joue pas toujours magnifiquement bien,
c'est vrai.
Il ne se gêne pas pour balancer. Voilà. Mais quand vous êtes en face du joueur qui vient avec vous s'il y a des invités et que le type c'est votre ancien copain, c'est ça ma
non,
question.
Le tout c'est de, je crois que c'est de rester assez objectif. Quand on est sportif professionnel, on accepte, on sait quand on a fait un bon match, quand on a fait des mauvais choix. Donc si la question elle est objective, et je pense que ça, il y a pas de problème à répondre et c'est souvent une réponse technique ou stratégique. Mais voilà, c'est pas une attaque personnelle.
J'ai compris. Joueurs. Mais la question peut être objective et aussi il y a de la politesse. Le gars qui s'est troué, qui sait qu'il s'est troué, vous allez pas lui dire, dis donc Jean-Claude, tu t'es troué, t'as été nul aujourd'hui.
On l'invitera pas sur le plateau, on prendra un qui a été plus ou moins bon.
J'allais justement vous demander ça. Qui sont les gens qui viennent et comment ça se décide ?
Ça se décide sur le coup, c'est-à-dire que quand un match se déroule devant nos yeux, à la fin du match, on décide librement des joueurs qu'on veut avoir. Et donc on discute donc avec l'attaché de presse du 15 de France et qui nous envoie, la plupart du temps, on a qui on veut. On travaille dans une totale liberté, je dois le dire. C'est-à-dire que
je vais donner un
on
exemple.
S'interdit rien.
Quand il y a un type qui pète les plombs et qui sort expulsé par l'arbitre.
À quelqu'un peut-être.
Non, mais vous n'allez pas le ressortir des vestiaires.
Non, mais le but, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir parler. Si quelqu'un est passé complètement à travers, on sait qu'il ne va pas avoir l'état d'esprit à se confier. S'il y a eu quelques erreurs, voilà, on va choisir. Il y a des profils. Il y a des gens qui aiment parler, et même qui assument quand ça s'est mal passé, qui ont fait un mauvais match ou collectivement. Et on va aller vers ces personnes-là. Ça ne sert à rien d'aller chercher quelqu'un qui va se fermer comme une huître et qui ça ne sera pas intéressant pour le téléspectateur.
Pardon, Vincent Clerc, je l'ai dit, vous étiez international et ancien professionnel de rugby. Vous avez déjà fait des mauvais matchs ?
Oui, plein.
Est-ce que vous l'avez déjà reconnu après ? Est-ce que vous avez déjà donné une interview en disant « j'ai été trop mauvais ou trop nul ou j'ai raté ça et ça » ou pas ? Ou est-ce que c'est trop douloureux non. et on a envie de s'isoler dans sa bulle ?
Non, je ne me suis jamais flagellé en direct en disant « c'était catastrophique, j'ai été nul ». Par contre, j'ai assumé, dire qu'on a été mauvais, que j'ai fait des erreurs. Moi, ce n'est pas un problème. Tout le monde l'a vu, on est les premiers concernés. Donc c'est pas un problème de le dire, je pense.
Je vais même vous dire quelque chose. À l'inverse, j'ai vu Vincent marquer un essai décisif en Irlande à la dernière minute et faire gagner son équipe. C'est un exploit personnel. Je l'interview à ce moment-là, il est joueur. Et là, il me parle du collectif et il remercie ses coéquipiers qui, grâce à lui, lui ont permis de marquer l'essai.
Oui, mais ça, c'est la com, c'est qu'il comprend le sens du collectif.
Non, en effet, vraiment, c'était...
Peut-être qu'une fois qu'il est dans sa chambre d'hôtel, il est au plafond et il saute sur le lit. On ne sait pas.
Certainement. Ça. Non, mais c'est vrai que dans les bons comme dans les mauvais moments, voilà, il y a quelque chose de très collectif dans le rugby.
Et comment vous étiez, vous, avec la presse ? Vous allez nous le dire juste après ça.
Le tournoi Destination, c'est ce week-end pour l'occasion. Au retour du magazine 15 sur 15 sur France 2. Présenté par nos invités Vincent Clerc et Cédric Baudou. On continue à en parler avec eux dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vincent Clerc et Cédric Baudou sont nos invités ce matin dans Culture Média pour parler du tournoi Destination qui démarre ce week-end. Pour l'occasion, ils seront tous deux aux commandes du magazine 15 sur 15 sur France 2, Philippe.
Vincent Clerc, recordman des essais, 101 essais en top 14, je l'ai dit, comme les Dalmatiens. Quel rapport vous aviez avec la presse quand vous étiez joueur ?
Plutôt bonne. Après, ça met du temps à se construire. C'est une histoire de confiance. On aime se livrer, on aime discuter avec des journalistes, que ce soit télé, radio, presse, quand on a confiance en eux et quand on sent qu'il y a de la compétence derrière. Donc finalement, c'était plutôt à chaque fois le cas.
Et quel effet ça fait après un mauvais match de voir une mauvaise note dans le Midi Olympique ou dans l'équipe ou dans n'importe quel autre journal d'ailleurs ? Quel effet ça fait une mauvaise note ?
C'est jamais agréable. Après, on sait que pourtant, on est plus compétent qu'eux pour se juger et on sait qu'on a fait un mauvais match. Mais des fois, on sent qu'il y a des choses qui ont été notées un peu à la va-vite sans vraiment regarder le match. Et des fois, ça énerve. Donc, on essaye de s'en détacher et de ne pas trop les lire.
Mais vous êtes fâché avec des gens ou jamais ?
Je me suis
avec
fâché. Je me suis jamais fâché avec Cédric, mais je me suis fâché un petit peu avec des journalistes je trouvais que c'était ils faisaient mal leur boulot en fait. Ils regardaient à moitié les matchs et ils commentaient, ils jugeaient personnellement de prestations et des fois ça allait un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on attaquait plus l'homme que le joueur sur le terrain et ça moi j'ai jamais apprécié.
Et est-ce que vous réécoutiez les matchs pour entendre les commentaires parce que quand on joue évidemment on n'entend pas ce qu'on dit sur soi.
Alors non, ça on évitait. Ouais. On regardait les images en accéléré. Non, on n'aime pas trop. Déjà c'est dur de se regarder, je trouve, surtout quand on sait qu'on n'a pas été bon. Donc en plus, s'il faut regarder les commentaires, on évite.
Cédric Baudou, est-ce que vous avez peur que la forme très moyenne de l'équipe de France, je dis ça avec beaucoup de pincettes, va influer sur les audiences, qui pourraient devenir elles-mêmes très moyennes ?
Non. On va dire que ça se maintient. C'est-à-dire que le tournoi Destination est sanctuarisé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis, si on regarde les audiences en télé depuis une quinzaine d'années, il y a un tassement, mais global, sur tous les programmes. Sur l'équipe de France, il y a eu un petit tassement, mais le public est là à chaque fois. Et là, je pense qu'en plus de ça, il y a une immense attente pour ce tournoi-là. Tout est nouveau, il y a de nouveaux joueurs, de nouveaux visages, un nouveau sélectionneur qu'on connaît bien puisqu'il était consultant chez nous avant. Et donc du coup, je pense qu'au contraire, là, il y a une attente énorme de la part du public, et y compris de nous. C'est-à-dire que nous, on pense que ça va repartir, là, on est assez optimiste.
Ouais, vous y croyez toujours par définition, mais là, est-ce qu'on peut y croire plus que l'année d'avant où on pouvait y croire mais on n'y a pas cru, et celle d'avant, on pouvait y croire et on n'y a pas cru?
Alors, ça fait longtemps qu'on y croit à chaque fois et qu'on est souvent déçu. Je me souviens d'un match qu'on a perdu il y a 2 ans à la dernière minute contre l'Irlande. Le monde s'est ouvert sous nos pieds. J'étais avec Raphaël Ibanez, on était assommés. Je pense que là, l'intérêt, c'est qu'on va découvrir une nouvelle génération de joueurs. Ce sont des gamins, j'appelle ça des gamins parce que ça fait longtemps que je travaille, qui sont très intéressants. C'est-à-dire qu'en gros, je retrouve en eux des valeurs qu'on aime dans le rugby. Donc, je suis assez confiant, moi, pour cette génération.
Et je ne vais pas vous lancer pour savoir pourquoi le championnat, le top 14, qui est le meilleur championnat du monde, donne une équipe qui n'est pas la meilleure équipe du monde. C'est trop long, on ne peut pas se lancer là-dessus.
Et puis en plus de ça, comme c'est sur Canal+, on me taxerait d'être partisan, donc je ne le ferai pas.
Donc déjà que vous leur avez piqué un consultant. Oui, tiens, qu'est-ce qui vous a décidé, Vincent Clerc, à venir sur France Télévisions alors que vous étiez bien au chaud sur Canal?
Alors, il y a le fait que l'équipe de France, ça reste quand même ce qui se fait de mieux en tant que joueur, mais aussi de le commenter, de retrouver les stades, de commenter que des matchs qui sont assez exceptionnels. C'est ça qui m'a fait basculer. Puis c'est vrai que je connaissais Cédric, effectivement, et Mathieu depuis un moment. C'est des gens que j'apprécie, donc... quand j'ai pesé le pour et le contre, il y a aussi le rythme de Canal+. C'était super, mais c'était tous les week-ends. Et c'est aussi quand on sort d'une carrière de rugbyman où déjà on a passé beaucoup de temps loin de chez soi, on a envie aussi de changer de rythme. Et France Télé aussi me permettait ça, de faire que des beaux matchs et un peu moins souvent.
Un mot sur le joueur australien Israel Folau, qui a été licencié par sa fédération pour des propos homophobes. Il a dit jusqu'à peu, il affirmait que les incendies ayant ravagé l'Australie étaient une punition divine pour avoir légalisé le mariage homosexuel. Il vient d'être engagé par un club de rugby à 13, c'est du rugby à 13 mais c'est du rugby quand même, les Dragons catalans, c'est un club français qui joue dans le championnat anglais. Les Anglais là-bas critiquent vivement le recrutement de ce joueur et les gens des Dragons catalans, donc les Français, plaident pour le droit à une deuxième chance. Et vous êtes plutôt du côté anglais ou du côté français?
Bah, la deuxième chance, ça fonctionne s'il y a un repenti ou si quelqu'un a pris conscience de ses propos. Visiblement, ça n'est pas le cas. Donc, je suis un peu anglais ce matin pour vous répondre.
Vincent,
je crois que c'est la première fois que je dis ça. Donc,
c'est vrai.
Ouais, je suis un peu anglais, c'est la première fois.
Ouais, le monde du rugby, enfin le monde du sport en général, aime la tolérance et l'ouverture d'esprit. C'est vrai que là, il en manque un petit peu. Et d'ailleurs, les Anglais ont prévu pour ce premier match Israël Folau de faire... voilà une spéciale bah pour la cause parce que il considère que Folau n'aurait pas dû rejouer. Alors après c'est vrai qu'il aurait peut-être pu ou dû s'excuser. En tout cas, dans son contrat, la moindre erreur fera qu'il sera définitivement banni du rugby, je pense.
Voilà, si je suis bien informé, le stade sera aux couleurs LGBT. Exactement. Je précise qu'il y aura également sur France 2 et sur France Télévisions les matchs de l'équipe de France des Bleuets, les moins de 20 ans, l'équipe de France féminine exactement, deux matchs seulement sur les cinq du tournoi, enfin deux matchs sur la deux. Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a déclaré il y a quelques jours qu'elle souhaitait que pour chaque match de sport diffusé à la télé, quelle que soit la chaîne, d'une équipe masculine, la chaîne devait diffuser un match avec une équipe féminine. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons?
Ben, nous, au rugby, on est plutôt d'accord avec elle sur ce plan-là, puisque nous, on diffuse les filles depuis 2012 maintenant. Ouais. C'est un pari qu'on a fait à l'époque où personne n'avait jamais diffusé de rugby féminin.
Et où personne n'y croyait.
Personne n'y croyait. Nous, on a misé sur elle, je vous dis, en 2012, parce qu'on faisait déjà les moins de 20 ans, on faisait le tournoi des seniors. Et donc, on s'est dit, tiens, on aura toutes les équipes de France, c'est génial. Ça a été un pari gagnant. Ça a été un succès populaire extraordinaire. L'année dernière, France-Angleterre a fait plus de 2 millions sur France 2. C'est une des meilleures audiences de France 4. On a retransmis la Coupe du Monde féminine, je crois que c'était en 2017, la dernière. On a fait plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est extraordinaire. On adore les filles en plus, elles sont super. Voilà, donc il faut en faire. On en fait déjà et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Et il y a beaucoup de filles autour des terrains. Même, je crois qu'il y a 2 filles sur 3 commentateurs qui vont commenter les moins de 20 ans. Vous avez les noms en tête?
Oui, j'ai les noms en tête. Sur les équipes, Jean Villou sera
vite,
donc
vite
avec,
parce que c'est la fin.
Laura Di Muzio, Inès Irigoyen, une jeune journaliste, fera ses débuts sur le bord du terrain. Hélène Macurdi avec Raphaël Talbot sur le bord du terrain et Benjamin Kaiser.
Et moi, je donne vos deux noms.
Et Cécile Gray, bien sûr.
Vous êtes Vincent Clerc, Cédric Baudou. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, 15 sur 15, c'est sur France 2, avant, après, pendant les matchs. Même des fois, il déboule sur la pelouse pendant les mêlées.
Et place maintenant au Rat d'auteur, votre rendez-vous du mot dans Culture Média. On retrouve le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je...
Rien.
Bonjour Stéphane.
Nous sommes jeudi.
On sait qu'on était vendredi. Arrêtez de penser, je vous ai déjà dit. On avait terminé sur cette chanteuse,
Elisa Erka.
Le syndrome de la chanteuse qui n'est pas très connue et qui fait des choses formidables.
C'est pas un syndrome.
Vous n'étiez pas connu, vous étiez pas connu.
C'est pas un syndrome du type pas connu.
Je vous ai découvert, vous étiez chez Edouard Baird dans la petite cellule de montage.
Cette capsule, comme vous dites, s'appelle le centre de visionnage.
C'est pareil. Hein.
Quoi?
Ce que je viens de dire, ce que vous dites, c'est pas très éloigné non plus. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour vous avez émergé?
Qu'est-ce que ça veut dire émerger?
Que des gens se rendent compte de votre talent.
J'ai du mal à répondre à cette question.
Est-ce qu'il y a des gens pas connus dont vous avez envie de parler?
Je peux vous parler d'un type qui n'est pas connu aujourd'hui,
qui est jeune.
Plus jeune que moi, c'est pour vous dire.
Oui, mais ça c'est pas.
Bah si, c'est un critère.
C'est plutôt un cratère aujourd'hui.
C'est un remarquable photographe.
Vous avez élevé la voix comme si c'était inéluctable.
Il s'appelle Sylvain Grandjean.
Oui, très bien.
Quel genre de photos?
C'est des photos animées de montée.
Des photos animées de montée.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais par exemple, il fait une photo et alors il y a un petit rideau rouge. On l'ouvre, il y a une femme nue.
Vous dire à poil, hein. C'est la femme nue que vous avez aimée ou bien c'est le petit rideau?
Vous
vous comprenez très bien ce que je veux dire.
Mais non, justement, c'est parce que je ne comprends pas ce que vous dites que j'essaie de comprendre.
C'est un type formidable.
Sûrement, ça j'en doute pas, pour avoir des petits rideaux rouges avec des cordes qui pensent ou des culottes de femmes nues.
Vous méprisez son travail.
Je respecte pas forcément votre élocution, mais je respecte ce que vous vouliez dire. Pas forcément ce que vous dites, mais votre intention est respectueuse.
Mais vous respectez également la personne dont je vous parle.
Entièrement. Il s'appelle comment, rappelez-moi ?
Sylvain Grandjean.
Grandjean ? Il faisait du cirque avant.
Il faisait du cirque.
Il avait quoi comme fonction dans le cirque ?
Il était avec un acolyte.
Tous les gens dans le cirque sont avec des acolytes.
Ils étaient deux.
Forcément, s'il y a un acolyte, ils sont deux. Un alcoolite. Ça, c'est quand vous êtes à deux et que vous êtes torché.
Ah bon ?
Oui.
Eh ben, pourtant, ils étaient deux et pas torchés. C'était très, très drôle.
Ça avait l'air amusant, oui.
Vous dénigrez.
Je ne dénigre rien.
Vous avez retenu le nom de ce garçon ?
Grandjean.
Grandjean. Et son prénom ?
Eh ben, de la famille Grandjean. Il y a plein de gens chez les Grandjean.
Sylvain.
Ça, c'est quelqu'un, par exemple, vous vouliez citer aujourd'hui.
Est-ce que vous m'avez gentiment proposé de le faire ?
Je suis un type gentil. Hein.
Oui, oui.
C'est rare, vous savez, la gentillesse, c'est précieux, donc vous pourriez être un petit peu plus déférent avec moi. On termine sur Grandjean.
Ah oui, on termine sur Grandjean.
C'était quoi le nom du cirque ?
J'ai plus la mémoire du nom.
Vous n'avez jamais eu la mémoire de Grandjean. Hein. Vous aviez que des souvenirs.
Mais le cirque est devenu un souvenir également.
On termine sur une note nostalgique. Au moins, on termine sur quelque chose. À demain, Gilles.
À demain, Stéphane.
Je vous embrasse.
Pardon ?
Un truc affectif.
Vous m'avez dit je vous embrasse, j'ai entendu.
Pourquoi vous avez dit pardon alors ?
J'ai pas dit pardon.
Vous avez dit je vous embrasse, vous avez dit pardon.
Non, non. On repassera la bande.
Vous repassez ce que vous voulez. Hein. Moi, je repasserai demain en tout cas.
À demain.
C'était les radoteurs avec Stéphane de Groot et Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain, 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec la célèbre dessinatrice Pénélope Bagieu. Elle vient d'adapter le célèbre conte. Lui aussi est célèbre. Tout est célèbre aujourd'hui de Roald Dahl, Sacrée Sorcière en BD. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu tout à l'heure. Pardon, son célèbre portrait inattendu. Ah oui, et puis dans les indispensables, deux duplex. D'abord, direction Angoulême. Pour le festival de la BD, on va retrouver Mathieu Charrier. Puis d'Angoulême, on va aller à Nantes pour le plus grand festival de musique classique en France. C'est la folle journée de Nantes, évidemment. Ça marche tellement bien qu'il n'y a plus qu'une journée, mais plusieurs. Il n'y a pas plus une journée, mais plusieurs. Cette année, c'est Beethoven qui a l'honneur et autre personnage à l'honneur, Thierry Geffrotin, sur place.